Yes, I have. Yeah. Again, on Twitter, I have noticed that there's a fair amount of sidewalk astronomy that goes on here in the city, often here on campus.
Here on campus, and there are also amateur groups within Hamilton as well that have other events. So the Royal Astronomical Society of Canada and the Hamilton Amateur Astronomers are fantastic organizations. And also, of course, on campus, we have a planetarium. So if you want to learn more about astronomy, not directly looking through a telescope, but if you want to learn about the night sky, we have public shows at the planetarium all the time.
You know, I have never gone to a planetarium show. I really should, because I've heard they are amazing.
They are really amazing. Good. And our graduate students in physics and astronomy do just a fantastic job as presenters.
Well, I will make sure I sign myself up for one of them, because I have heard they're good.
Definitely worthwhile. Yeah. And in the summer, the planetarium shows are followed with evening observing for people who want to stick around. Sidewalk astronomy sets up telescopes.
Oh, yeah?
Mm-hmm.
Oh, yeah. So, yeah, people should check that out.
Absolutely.
It's like fun. We've been talking a lot about the science, but one of the things I wanted to talk to you about was our profession is fairly male-dominated.
Indeed.
I think our home department's actually pretty good by many standards. There's quite a few of us in the department, and in some of our undergraduate programs and parts of the graduate program, we have quite a lot of women. But it can be very tricky being a woman in a male-dominated profession for... Mm-hmm. Any number of reasons. For much of my career, I became very used to being the only woman in the room.
Mm-hmm.
And that can be challenging. Well, I certainly find it challenging. Have you found it challenging? Sometimes being, you know, one of very few women in a...
Oh, I certainly have. I'm fortunate that in astronomy, compared to the other fields within physics, there's a higher proportion of women in general. In astronomy. But my research field when I first started out in graduate school was less about galaxies and more about those big questions in cosmology. And cosmology tends to be, within astronomy, the most male-dominated sub-discipline within astronomy. Mm-hmm. So I would go to a conference and there would be almost no other women in the room. So a huge conference room, I was a graduate student, and there would be almost no other women.
Santé! Du français à Hamilton? Ben voyons, c'est sûr! Musique, entrevues, annonces culturelles, portez un toast avec nous à la francophonie d'ici et d'ailleurs, tous les lundis, de 16h à 17h, à l'émission French Toast avec Hélène Caron. Hein? What was that? French in Hamilton? Mais oui! Join the party! Listening to Hamilton's other official language never felt so good. French cultural announcements, music, interviews, French Toast. Mondays from 4 to 5 p.m. on CFMU 93.3 FM.
Hey, don't you know there's a place where you can always go for news and updates on CFMU and Hamilton too. 93.3 CFMU. On Twitter, 93.3 CFMU. On Twitter. Follow us for more news on the shows and events you love.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission French Toast. Vous êtes en compagnie d'Hélène Caron, une émission exceptionnelle aujourd'hui. J'ai assez hâte. Écoutez, je m'entretiens avec le très populaire, le très reconnu écrivain canado-tunisien Eddy Bourraoui aujourd'hui. Oui, 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 je m'entretiens avec Eddy Bourraoui. Quel honneur, et je vous jure, je vous promets que je ferai de mon mieux pour être à la hauteur de cet homme absolument fantastique. Écoutez, tout d'abord, quelques annonces. La prochaine réunion du Club de lecture francophone, ce sera en décembre, donc le premier jeudi du mois. Ensuite, il y a quelques activités de prévues avec Les Petites Pommes, qui est un camp d'immersion. Donc, contactez Mary Clements pour voir ce qui se passe. Et ensuite, ben écoutez, jetez toujours un coup d'œil sur la page du Centre français pour voir quelles activités culturelles vont se dérouler au cours du mois. Et en plus, ce mois-ci, écoutez, il y a le lancement d'un site web absolument fantastique. C'est pour les francophones de Hamilton. En fait, c'est pour aider les immigrants, donc les francophones issus de ou provenant de l'immigration, pour les aider à mieux s'intégrer dans notre communauté. Je vais vous donner le site web dans les notes de l'émission, donc je vous recommande fortement d'aller le voir. Vraiment, c'est un site qui est extrêmement bien fait. C'est Julie de LACFO Hamilton, je crois, qui a mené le projet à bien avec les autres organismes francophones de la région. Donc, vraiment, une belle ressource. Si vous connaissez des gens qui sont nouveaux à Hamilton, qui sont francophones ou francophiles, n'hésitez surtout pas à leur refiler cette ressource. Et encore une fois, le site précis, parce que c'est un peu long, le site précis sera dans les notes de l'émission d'aujourd'hui. Et voilà, je vais commencer tout d'abord avec une petite chanson de Joanne Mora et je reviendrai sous peu avec notre invité d'honneur d'aujourd'hui, Eddie Bouraoui.
J'ai oublié mon nom. Ça m'a permis enfin d'écrire cette chanson. Pour un instant, j'ai retourné mon miroir. Ça m'a permis
une lettre là, L-A, dans la T-I-T-I-A. S'il faut aller à la dérive, je veux bien y aller pour toi, L-A, dans la T-I-T-I-A. Si tu le fleur bien maladive, je l'accueille du bout des doigts. L-A, dans la T-I-T-I-A. Ma raison définitive se lit dans ces huit lettres-là. L-A, dans la T-I-T-I-A.
Voici donc en direct des studios de CFMU 93,3 FM. On vient juste d'entendre deux chanteuses de Toronto. Joanne Mora, tout d'abord, qui nous a chanté pour un instant. Et ensuite, c'était Amélie et les singes bleus qui nous chantaient Hello dans la TIA. Oui, je ne sais jamais comment dire le nom de la chanson. Et j'ai maintenant avec moi notre invité d'aujourd'hui, un invité absolument incroyable. Et ça me fait tellement plaisir. Et en fait, c'est tout un honneur pour moi de l'avoir au bout du fil. C'est M. Eddy Bouraoui. Bonjour.
Bonjour, Hélène Caron. Comment ça va?
Ça va très bien, merci. Eddy Bouraoui, vous avez enseigné, vous avez fait tellement de choses, vous avez écrit, vous avez... En fait, je voulais vous parler aujourd'hui parce que vous venez de juste de publier un nouveau recueil de poésie intitulé Passerelle. Mais vous êtes déjà venu aussi donner une conférence ici à l'Université McMaster. Vous êtes actif à l'Université de York. Vous faites toutes sortes de choses. Vous êtes officier dans l'Ordre des Palmes académiques. Vous êtes membre de la Société royale du Canada. Ouf! Vous avez fondé le Centre Canada-Méditerranée parce que vous êtes d'origine tunisienne. Vous avez été, je ne vais pas dire naturalisé, mais vous êtes devenu Canadien en 1971.
Tout à fait.
Vous avez une feuille de route épuisante, mon cher monsieur Eddy Bouraoui.
J'espère que ça ne vous épuise pas trop.
Et je tiens à le mentionner aux auditeurs et auditrices, vous êtes un homme absolument fabuleux, charmant, terre à terre. Je vous ai rencontré en personne.
Vous êtes vraiment très gentil. Oui, terre à terre, oui, je suis simple, j'aime bien la simplicité, vous savez.
Des fois, en anglais, on dit que c'est underrated. C'est pas quelque chose qu'on n'accorde pas toujours la bonne valeur à être terre à terre, surtout de ces temps-ci avec les médias sociaux, les gens qui pensent qu'ils sont peut-être un peu plus ou un peu mieux que ce qu'ils sont vraiment dans la vraie vie.
Oui.
Ouais. Mais donc, je vous ai au bout du fil et là, j'ai comme un million de questions à vous poser.
D'accord, avec grand plaisir.
Écoutez, j'aimerais que vous nous parliez tout d'abord un peu de votre cheminement. Comment est-ce que vous êtes arrivé ici en Ontario? Parce qu'il faut le dire, vous écrivez en français, mais vous êtes franco-ontarien.
Tout à fait.
Comment est-ce que vous avez abouti ici et en sachant très bien que vous avez fait des études en littérature anglaise, comment est-ce que vous en êtes arrivé à commencer à composer en français?
Bon, d'accord, oui, ça c'est une question qui me prendrait peut-être 3 ou 4 mois. Mais enfin, bon.
Ben écoutez, on a 45 minutes.
Je vais vous donner assez rapidement. Écoutez, bon, très simplement, je suis né en Tunisie, d'accord. J'ai fait mes études secondaires en France, dans le sud-ouest. Et là, j'ai eu mon bac. Et après, j'ai fait une licence à Toulouse, licence d'anglais, de langue anglaise et de littérature anglaise.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir un Fulbright Scholarship.
Ah, la
qui
chance.
Qui m'a amené aux États-Unis.
Il faut le dire, être un Fulbright Scholar, c'est parce qu'on a énormément de mérite. Donc,
Enfin, bon, je crois que, bon, sans me vanter, il y avait 260 postes, enfin, étudiants de la France entière, et moi, je l'ai eu parmi les peut-être 2 ou 3 premiers.
Wow!
Alors, bon, j'ai eu donc cette bourse Fulbright, on m'a envoyé à Indiana University. En Indiana, on m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, j'ai une licence d'anglais, quoi, de littérature anglaise. Bon, vous voulez faire une maîtrise? J'ai dit oui. Bon, pour la maîtrise, il fallait 2 ans. J'ai pu avoir une bourse pour... Parce que la bourse Fulbright est simplement pour une année qui couvre tout.
D'accord.
Le voyage et le séjour... enfin, pour manger et boire, pour payer les études et tout. Tout est compris. Seulement, c'est pour une année seulement. Et je suis allé voir le Foreign Student Advisor. Et je lui ai dit, écoutez, Monsieur Burnham, je me rappelle toujours de son nom parce qu'il a été très gentil. Je veux postuler pour une bourse pour finir ma maîtrise. Et alors, j'ai fait une maîtrise en littérature anglaise et surtout américaine.
Mm-hmm.
Et j'ai fait une mémoire sur l'image de la France dans l'œuvre de Henry James.
Ah, ça c'était intéressant.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Alors bon, j'ai eu encore une seconde chance d'avoir été accepté à Cornell University.
Oh, ouais.
Pour faire un doctorat en Roman Studies et littérature, en fait, comparée anglaise, américaine. Et on m'a dit de faire la française et l'italienne, voilà.
Ah, ok,
j'ai
mais
fait
attends.
Donc le doctorat, ça m'a pris 6 ans, hein, là.
Oui.
Mais en gros, je ne voulais pas rester aux États-Unis. Je déteste la politique américaine.
Ah oui, mais là,
voilà
juste avant...
Voilà pourquoi je suis venu au Canada. Alors je me suis dit, et en même temps, vous savez, j'ai développé... une méthodologie d'enseignement de la langue française qui s'appelle parole et action, c'est-à-dire la grammaire revue et corrigée de française, mais avec un soubassement culturel comparé franco-nord-américain.
Ah.
Voilà, et donc j'ai créé ce néologisme qu'on dit toujours néologisme, j'aime pas le mot néologisme d'ailleurs, j'appelle ça un mot concept.
Ah, okay. D'accord.
Un mot concept, et ce mot concept s'appelle créaculture.
Et là, je tiens à le souligner, vous aimez beaucoup les mots concepts comme ça. Vous créez énormément de mots concepts.
Oui, tout le temps, oui, parce que j'aime bien m'élastiquer dans la langue française. c'est la phrase que j'utilise toujours, m'élastiquer, j'aime bien ça.
Ouais.
Alors voilà, donc ces deux volumes de créaculture, donc créaculture 1 et 2, et plus... Parole à action était à l'époque parmi les premiers lancés en Amérique du Nord. D'ailleurs, il a été utilisé dans 50 universités aux États-Unis et au Canada.
Wow!
Voilà. Et à un moment donné, je me rappelle, comme aujourd'hui encore, il y a une petite anecdote. Je descends à Western Ontario, à London, c'est l'Ontario où ils avaient adopté ma méthodologie.
Mm-hmm.
Et le professeur qui est venu me chercher, il m'a dit, est-ce que c'est vous, monsieur Créaculture? Je lui ai dit, oui, mais moi, je suis monsieur Bouraoui.
Pour les intimes.
vous savez, il m'arrive des aventures comme ça, c'est incroyable. Bon, en tous les cas, bon, alors, comme je voulais pas rester aux États-Unis, je voulais venir, puisque ma méthodologie, enfin, de la langue française sous bassement culturel nord-américain, était conçue pour les anglophones.
Ok, ok.
Et voilà, et comme je voulais venir à Toronto, et que je suis venu déjà à Toronto, j'ai visité tout le Toronto, enfin, l'Ontario, le Québec, bon, Vancouver, etc. Je voulais être dans une grande ville et je voulais être près de l'État de New York, puisque Cornell était à Ithaca, New York, mm-hmm. hein, dans le Finger Lakes. Et je suis venu plusieurs fois et finalement, quand je suis venu exactement en 1966. Et 1966, on m'a offert deux postes. Un poste à U of T et un poste à Glendon parce que York Campus n'était pas encore construit.
Ah, OK. Et oui, donc, voilà. le campus de Glendon existait avant York.
Le campus de Keyless Steels.
OK, OK.
N'était pas construit. Alors, le doyen qui est décédé, malheureusement, qui m'a embauché, Dean Saywell, il me dit, bon, je vais envoyer le vice-dean, Pippenberg, professeur Pippenberg, pour vous montrer le campus. Je suis allé au campus, il n'y avait rien, il creusait les fondations de Founders College.
Oh, voici votre bureau, voici votre salle de classe.
Je dis, où est-ce que je vais enseigner? Il me dit, là, j'étais embauché... au mois d'avril, au mois de septembre, j'ai enseigné dans le réfectoire, là où on mangeait. Il n'y avait pas de salle de classe encore.
Oh là là!
Mais on m'a donné le bureau 130. Et je me rappellerai toujours de ce bureau-là parce que j'ai passé quelques années là. Voilà.
Wow! Donc
voilà,
vous avez.
Comment je suis venu à Toronto et dans la province de l'Ontario.
Et donc, vous avez assisté...
Depuis là, je n'ai pas bougé, Hélène.
Ben oui, mais vous avez aussi assisté à la création de toute une université avec le campus
Glendon.
Oui,
oui, je suis, si vous voulez, un des premiers presque fondateurs. Hein.
Vous avez posé une des premières pierres.
Tout à fait. Tout à fait, vous voyez, la première pierre, je l'ai posée, moi. C'est intéressant quand même. Ah oui, il faut que je vous dise ça. C'est que Glendon, à l'époque, quand on est passé de Glendon à York, au main campus de York, on avait 600 étudiants.
Oh.
Et aujourd'hui, vous savez combien on a?
Oh, je dirais 20 000.
60 000.
Aïe, aïe, aïe. Ah,
voilà,
ça c'est bon ça.
60 000 étudiants, c'est une des plus grandes, la troisième grande université du Canada.
Ha! Ça, je ne savais pas, mais c'est énorme.
Ben voilà, vous le savez maintenant.
Oui, c'est ça. Et est-ce que vous continuez à enseigner encore, M. Bourrelli?
Non. J'ai pris ma retraite en 90, je crois, 99 ou 98, quelque chose comme ça. Mais comme j'ai publié, vous savez, pas mal de livres, peut-être mm-hmm. je suis, sans trop me vanter, le plus publié de l'université.
Vous avez, je pense que il n'y en avait
pas.
Et pas
simplement sur le plan créateur, sur le plan académique.
Oui, sur les, oui, tout à fait. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y avait un roman qui s'intitulait Rose des vents parmi ce que vous avez publié?
Rose des sables, c'est
Rose
pas
Rose des sables.
Sables,
c'est ça, Rose des sables, oui.
Oui, oui, ouais. Bon, des années 90, je crois.
Oui, oui, et j'ai lu
oui,
ça
Rose
il y a 10 ans.
Rose des sables, oui, ça c'est un de mes textes. C'est une, enfin, un conte philosophico-poétique, hein.
Mm-hmm.
Et que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ça a été traduit en arabe et ça a été et joué au Caire.
Oh, donc jouer, une pièce de théâtre.
Jouer au cœur, oui, on l'a joué. Et ça a été traduit en italien et ça a été joué à Acquaviva delle Fonte.
Oh! Okay. Est-ce que vous parlez italien aussi, M. Bourraoui?
Oui, 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 je parle italien, oui.
Donc vous parlez l'arabe, l'anglais?
Non, je ne parle pas malheureusement et je n'écris pas l'arabe parce que je n'ai pas étudié ça quand j'étais jeune. Je suis allé en France, comme je vous l'ai dit.
Ah,
mais
d'accord.
Mais je parle le dialecte tunisien.
D'accord.
Ça c'est pas de l'arabe, parce que par exemple, je vous donne un mot seulement, Taoula, en dialecte tunisien, vient de Tavola, qui est italien. Donc c'est un mélange d'arabe, de français, d'italien, de toutes les langues.
Ah.
Et c'est ce qu'on appelle le dialecte. Et en tunisien, on l'appelle la Darija, ça veut dire la langue courante.
Et donc, si vous, je crois que je vois un parallèle en parlant de ce dialecte de la Tunisie, qui est un métissage des langues au fond. Peut-être que ça vous inspire à créer vos mots concepts en français.
C'est possible. Je ne sais pas, mais oui, ça peut-être c'est ça qui m'a inspiré. Je ne sais pas. Moi, je dis encore une fois, je tire toutes mes sources de 3 continents. Le continent africain, qui est mon continent natal, dont je suis très fier. Mon continent européen, donc surtout avec la France et toute l'Europe, parce que je connais presque toute l'Europe, j'ai été partout, j'ai fait des conférences partout en Europe. Et l'Amérique du Nord, et plus particulièrement Toronto, l'Ontario, mais le Canada surtout.
Mm-hmm.
Et voilà, donc j'essaie de vivre, si vous voulez, au diapason linguistico-culturel des 3 continents.
Et politico-économique, disons-le aussi, parce qu'il y a certaines références dans votre recueil de poésie passerelle. Vous faites allusion à certains événements aussi qui se déroulent sur ces continents-là.
Oui. Enfin, quand je dis ça, en gros, les 3 continents, mais bon, j'ai créé un continent sur Bangkok, donc l'Asie. Je connais pas mal de monde de l'Asie aussi. J'ai voyagé aussi en Asie. Je voyageais un peu partout à travers le monde. Mais disons, la base essentielle, c'est ça tire de ces 3 continents, surtout culturels. Voilà. Mais le mot concept, c'est parce que j'ai réagi, vous savez, Hélène. On me dit toujours, vous êtes très bon pour les néologismes. J'ai dit non. Parce que le néologisme est un jeu de mots gratuit.
Ah, c'est comme ça que vous comprenez
le
néologisme.
Le néologisme, c'est un jeu de mots qui est gratuit. Or, chez moi, non, je n'aime pas ce mot-là. Et j'ai créé ce que j'appelle les mots concepts. C'est-à-dire, chaque mot emporte avec lui une certaine conception du monde tel que moi je la vois.
Mm-hmm.
Voilà, d'accord. C'est seulement des créa-culture. C'est ma façon de considérer la culture. Je peux vous faire un cours là-dessus, sur ce mot-là, mais je vais le simplifier en disant que il s'agit pas de parler de la culture. En général, on parle culture haute, culture qu'on met dans les musées, la littérature, etc. Et culture populaire, c'est-à-dire fabriquer des paniers ou des vases de vaisselle.
D'accord. Mm-hmm.
Or, moi, je n'aime pas beaucoup cette dichotomie entre haute et, disons, basse culture, d'accord.
Mm-hmm.
C'est ce que j'ai appelé, moi, c'est la binarité infernale. Alors, j'ai créé Croyer Culture parce que la culture, elle est toujours en création. On fabrique la culture. Chaque pays fabrique sa propre culture. Et par exemple, l'interaction de l'homme et du milieu, homme-femme, trait d'union femme, homme-femme avec un milieu donné, produit automatiquement de la culture dans tous ses états, c'est-à-dire du haut en bas, au milieu, partout.
Écoutez, j'ai le goût de vous demander, parce que j'ai entendu Grégory Charles à une émission de Radio-Canada parler de la culture. Et il disait que pour lui, la culture, c'est qui on est maintenant et qui on va être demain. Pour vous, qu'est-ce que c'est la culture?
Je vous dis, je n'aime pas beaucoup le mot culture.
Ah ah, vous n'aimez pas le mot néologisme ou le mot culture?
Non, je préfère le créa-culture.
D'accord.
C'est-à-dire la culture, non pas aujourd'hui et demain, mais partout et tout le temps.
et qui est créée.
Elle est toujours en mouvement.
Mm-hmm.
Si je suis Canadien aujourd'hui, depuis 1971, comme vous l'avez très bien remarqué, je produis de la culture canadienne, mais qui est métissée à la culture... Métissée, j'ai pas le mot non plus, mais disons qui est mélangée, qui est trafiquée, c'est le mot que j'aime bien plutôt, avec la culture nord-africaine, africaine dans son ensemble, parce que je connais le Cameroun, le Côte d'Ivoire, le Sénégal, C'est des cultures qui m'intéressent parce que c'est mon continent natal.
Mm-hmm.
Mais aussi des cultures européennes, de l'italien, du grec, du français, etc. Et de nord-américain, plus particulièrement le Canada et les États-Unis.
Et peut-être aussi qu'avec les mouvements de population qu'on voit aujourd'hui, justement, c'est davantage de créaculture.
Tout à
voit.
Fait. Oui, ils sont en train de créer de la culture.
Ouais,
Et je vais vous dire une chose qui est aussi intéressante. Quand j'étais gamin, j'étais né dans un quartier qui s'appelle Moulinville, dans la ville de Sfax, ce quartier était Moulinville, il y avait des Français, des Italiens, des Juifs, des Maltais, des Noirs, des Blancs, des Musulmans, tout le monde était là. Et on vivait dans l'harmonie, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de chicane, il n'y avait pas de violence, il n'y avait rien du tout. Et je crois que c'est ça qui m'a donné cette idée, qui m'a élevé comme ça, qui m'a donné le sens de la créaculture. D'accord?
J'aime bien ça, votre créaculture.
Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, créaculture.
Ouais, bon. c'est moins figé dans le temps aussi. C'est un mot qui est beaucoup plus actif. Ouais, qui reflète davantage ce qui se passe.
Oui, parce que vous savez, la culture, elle n'est pas morte. Elle est vivante, elle se fabrique. Et quand on la met dans le musée, c'est-à-dire l'œuvre est terminée, quand on met du Picasso ou du Rembrandt, ou qu'on met du Beethoven à la musique, etc., ça fait partie de la culture, mais ce qui a été conçu d'une manière créatrice. D'accord ou pas d'accord?
Oh oui, non, tout à fait d'accord. J'attendais le reste.
Bon, je ne vous vois pas réagir, non, je m'inquiète, Hélène. Je m'inquiète, je vois un silence là.
J'écoutais attentivement.
Vous faites très bien d'ailleurs. Vous faites très bien et moi j'arrive à vous faire rigoler, c'est déjà pas mal.
Ah oui. Et en fait, je suis certaine qu'à la maison aussi, les gens rigolent parce que honnêtement, c'est assez comique tout ça.
Oui.
Mais on rit, mais on parle de choses très sérieuses en même temps.
Mais bien sûr,
Mais bien sûr,
c'est très sérieux ce que je vous raconte là. C'est pas de la tarte, hein.
Ouais, mais effectivement, vous savez, quand l'art est mis dans des musées, est enfermé, il y a une partie de cet art-là qui meurt aussi, de cette culture-là, si on veut. On passe à autre chose, peut-être. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un moment précis dans le temps. C'est bien.
Oui, tout à fait. Vous savez, enfin, je ne dénigre pas l'art dans le musée, au contraire. Il est arrivé à un niveau où il doit être classé dans un musée, d'accord? Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé? On ne pense pas à ça, on ne pense pas, on regarde, on jouit du tableau ou de la musique, mais on ne sait pas que derrière ça, il y a un bonhomme, une bonne femme qui a créé ça. D'accord? Il y a donc un certain humanisme là-dedans. Ce n'est pas un objet pur et simple.
Oui, et il faut dire aussi, je pense entre autres, on a une exposition en ce moment à la Galerie d'art de Hamilton.
Oui, vous en avez une très bonne d'ailleurs.
De Norval Morisseau, c'est assez... vous parlez de la photographe certainement.
Oui.
Le nom m'échappe. J'ai été la voir. Elle était extraordinaire, extraordinaire.
Non, mais vous savez, vous avez une excellente galerie et vous avez aussi, parce que j'ai vu ça, j'ai visité ça quand j'étais J'étais pour l'évaluation de votre programme de francophonie.
Ah, mais vous étiez ici la semaine dernière?
Non, pas la semaine dernière, avant. Ça s'est fait avant.
OK. On a eu une réévaluation sur
Dès le début, il voulait faire, je crois, un doctorat sur la francophonie, quelque chose comme ça.
Vous allez être tellement content. Le doctorat existe maintenant. Le programme a été lancé et j'en fais partie.
Ah, oh, bravo Hélène, ça me fait tellement plaisir.
Ben merci à vous parce que vous avez certainement contribué à la mise en place du programme d'une
oui,
façon ou d'une autre.
Oui, j'ai contribué, oui, j'ai ouais. contribué. Vous pouvez le demander au professeur Suzanne
oui,
Rostar, qui est une grande amie à moi, que j'aime beaucoup. Donc, elle m'a invité avec, je ne me rappelle plus, un collègue. Il fallait un Canadien et un Américain.
Ah.
Pour faire l'évaluation du doctorat en francophonie. Et c'est quelque chose que je voulais faire à York et qu'on n'a pas réussi. Et vous l'avez fait et je l'ai dit bravo.
Oui, et c'est un programme absolument fantastique. Parce
oui,
que
non,
c'est...
fantastique. Et vous avez le personnel, le matériel, vous avez l'espace, vous avez... Tout ce que vous voulez, vous faites la francophonie. Et moi, je vous félicite d'être candidate au doctorat, là.
Oui, bien, écoutez, merci beaucoup. Il reste encore... je suis en pleine rédaction de la thèse, mais donc
non,
il reste...
Très bien, vous avez déjà choisi la thèse. Vous êtes
en
avance.
Oui. Oh, écoutez, j'ai fait un transfert d'université. Je suis passée de l'Université de Toronto à l'Université McMaster.
Oui?
En fait, j'avais fait ma maîtrise ici, et à l'époque, il n'y avait pas de programme de doctorat.
C'est ça.
Donc, en 2014 ou en 2015, ça a donné que j'ai parlé à Jane... oh mon Dieu, je ne me souviens pas de son nom de famille. Voyons, Jane, elle a pris sa retraite depuis. Elle était la responsable des étudiants supérieurs.
Oui.
Et elle m'a dit, Hélène, faudrait vraiment que tu viennes voir notre programme d'études supérieures pour le programme de doctorat.
C'est ça.
On pourrait faire un transfert. Et quand j'ai transféré, justement, ma directrice de thèse, c'est Suzanne Crosta, que je salue. Et Suzanne, donc, est absolument phénoménale. Et je m'étais assise avec elle et je lui ai expliqué à Toronto, j'ai eu quelques difficultés à faire accepter mon sujet, qui était Food Studies, l'étude de la nourriture en littérature, et plus particulièrement en littérature francophone.
C'est ça.
Et donc, j'avais dit à Suzanne, si ça pose problème, je comprends tout à fait que ça peut tomber à l'extérieur du cadre que s'est fixé le département de français, je comprendrai. On se laisse et on se quitte et on n'est pas plus mal amis pour ça. Puis elle m'a dit, mais non, au contraire, ça nous intéresse. C'est en plein ce qu'on veut faire. C'est des choses
non, c'est
comme
excellent.
Ça.
C'est excellent comme sujet.
Ben, merci. Mais donc,
oui,
c'est ça.
Oui,
c'est,
oui,
mais,
c'est très bon. Pourquoi pas?
Mais merci. Mais c'est exactement ça. Donc, ce sont des sujets qui touchent la francophonie et qui ne sont pas des sujets qui sont, je veux pas dire typique, mais peut-être davantage des sujets auxquels on s'attend. Donc, j'adore la direction que prend le département avec ce programme. C'est vraiment pour nous pousser à vraiment aller plus loin dans notre thèse et dans notre vision des choses.
Oui, oui. Ben vous êtes d'abord dans de bonnes mains avec le professeur Costa.
Oui, oui.
Dans
oui.
de bonnes mains.
Ah oui. Ah oui, ça c'est... Elle est incroyable.
Je suis absolument sûr.
Oui. On a, des fois, on a la chance de tomber sur des professeurs qui marquent notre carrière.
Tout à fait.
Et j'ai eu plusieurs professeurs, en fait, à l'Université McMaster du département qui m'ont marqué. Et Suzanne, c'est une de ces professeurs-là et qui a été d'accord pour embarquer dans l'aventure du doctorat en littérature francophone et études sur la nourriture. Donc, ça, c'est... Je lui en dois une.
c'est formidable.
Ouais.
Bravo.
Oui, mais donc, pour revenir à votre...
Revenons à nos moutons.
Ben oui. Donc, vous êtes venu ici, vous avez fait l'évaluation du département. Depuis, on a un programme de doctorat, donc grand merci.
Oui,
et justement, en parlant de nourriture, écoutez, j'allais commencer avec d'autres choses, soit parler de votre recueil de poésie, mais tant qu'à y être, j'ai lu votre recueil de poésie, donc au complet.
Oui.
Et j'ai remarqué que vous mentionnez un peu de nourriture, mais pas beaucoup.
Oui, mais vous allez trouver de la nourriture dans mes romans, pas dans la poésie.
Oui, ben c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant quand même.
Oui, 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 c'est intéressant. Bien sûr, je parle de... la nourriture est très importante pour moi. C'est pour cela que je vous félicite d'avoir choisi ce sujet. J'adore manger. Je suis, tu sais, je suis un bon dégusteur de bons repas.
Peut-être un foodie?
Pardon?
Est-ce que vous êtes un foodie? Quelqu'un qui aime ceux qui aiment beaucoup la nourriture, donc qui aiment food, il y en a beaucoup qui s'appellent des foodies. Donc, ils aiment prendre des photos.
Pas le mot, et,
ouais.
Écoutez, oui, je suis food, whatever.
Tout
de
à
nourriture,
fait.
Mais je suis difficile à satisfaire. C'est ça mon problème.
Ah ah, parce que vous avez une telle expérience de la nourriture.
J'ai une telle expérience de la diversité de nourriture que j'ai eue dans toute ma vie. Je préfère, en gros, la nourriture française, parce que c'est là où j'ai vécu et j'ai été élevé.
Mm-hmm.
Et en deuxième, la nourriture italienne.
Ah, ben oui, ça c'est...
Voilà, alors là, ouais. Et bon, aussi j'aime le bon vin, parce que j'étais élevé dans la région de Bordeaux. Donc pour moi, le Bordeaux est le summum des vins rouges.
Mais écoutez, étant donné que vous êtes si épris de la nourriture et du bon Bordeaux. Je dois vous poser la question à ce moment-là. Pourquoi est-ce que la nourriture et le vin, pour vous, c'est davantage dans les romans et non pas dans la poésie?
Ah, ça, c'est une question formidable, mais à laquelle je ne pourrais pas répondre. Je crois, il doit y avoir de la nourriture et du vin dans la poésie. Ben, peut-être pas dans ce recueil, peut-être dans d'autres. Mais je sais que parfois, je parle des repas que j'ai faits dans les romans, parfois. Hein.
Mmh.
Parfois, dans les romans, je parle des repas que j'ai appréciés. Etc. Je n'oublie pas la nourriture parce que pour moi, essentiellement, il faut manger une nourriture saine pour avoir une bonne santé, une bonne vie. Une nourriture saine, un intellect qui est curieux intellectuellement parlant et l'exercice du corps, c'est-à-dire ne serait-ce que marcher.
Oui.
Voilà, en gros, hein, si vous voulez.
Oui, en fait, c'est...
Alors, la nourriture est la première des choses. Hein.
Ah, bon, ben ça, c'est bien important. Mais,
c'est très important, la nourriture, de ce qu'on mange.
Mm-hmm. Et j'aimerais revenir sur le mouvement que vous avez mentionné. C'est important de bouger. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout récemment...
Exact, il faut bouger. Parce que si on ne bouge pas, on ne digère pas bien et on ne se porte pas bien non plus.
Oui, exactement. Donc, c'est sûr, pour les fonctions du corps, on s'entend bouger, c'est essentiel. Mais également pour l'esprit. Pour aérer les pensées, pour avoir du mouvement dans nos idées, c'est important d'avoir du mouvement dans le corps.
Tout à fait.
Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant comme
c'est
parallèle.
C'est très intéressant, exact. Mouvement dans l'esprit et mouvement dans le corps.
Mm-hmm.
Et pour couronner ça, Hélène, je vous donne le secret, il faut au moins rire une fois par jour.
Oh ben là, on est bien parti aujourd'hui. On a ri au moins.
On est bien parti, voilà.
Ah,
c'est
oui.
Ça. Tu vois? Tu vois, quand je ris, ça suffit. Ça suffit.
Ouais.
Ne serait-ce, ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter, hein?
Donc, et voilà les secrets d'une longue vie prospère, selon Eddie Bouraoui, c'est ça?
Exact. Voilà le secret d'une longue prospère, je ne sais pas si c'est matériel, mais disons d'une vie saine.
Ah, bon, on peut parler de prospérité au niveau de la santé.
Oui, oui, la santé d'abord, ouais. C'est la primauté, après on verra.
Oui, exactement.
Parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire, Hélène.
Oui, ah, vous le dites si bien. Et en fait, j'aimerais revenir donc à votre recueil de poésie.
Allez-y,
à la page...
je m'excuse de cette...
Ah, ben c'est correct, c'est ça...
Digression.
Mais c'est ça la beauté de la radio, hein.
Oui, allez-y.
Oui, ben écoutez, à la page 82, donc, c'est à peu près le seul endroit où j'ai trouvé de la nourriture. Et c'est La belle vie pour l'Asiatique. C'est donc le titre de cette section.
Oui.
Et vous avez farcir des tomates, préparer des saucisses, du riz, manger 3 fois par jour à heure précise, laver la vaisselle, faire le ménage, passer aspirateur, se maintenir propre, etc. Et donc, c'est seulement au début que vous parlez de nourriture et farcir des tomates, préparer des saucisses, du riz, manger 3 fois par jour. Et le titre, c'est « La belle vie pour l'Asiatique ». Et jamais j'aurais cru qu'avec Asiatique, on avait des tomates farcies, des saucisses peut-être, du riz certainement. Mais donc, j'étais curieuse, est-ce qu'on parle de... Je sais que vous n'aimez pas le mot « métissage », ou « hybridité », mais je ne sais vraiment pas comment définir ça. On dirait que c'est vraiment un mélange culturel d'un point de vue d'alimentation.
Oui, un mélange culturel qui est, je vous donne un secret, qui est vécu, je l'ai vécu ça. Parce que j'aime bien, j'ai une copine enfin, qui à Paris avec laquelle je rigole pas mal et elle me fait ces saucisses qui sont spéciales.
Ok.
Qui sont vraiment spéciales. Et d'ailleurs, c'est une femme très... religieuse, très bouddhique, très très sévère, très et qui va à la pagode chaque semaine, 2 ou 3 fois même. Et elle apporte ses saucisses que j'aime bien. Et on lui dit, c'est les meilleures saucisses qu'il ait jamais faites. Alors, elle est tellement contente parce que elle sait que c'est cette saucisse-là que j'aime bien cette saucisse. Les autres, j'aime pas. Je mange pas de saucisses, normalement.
Ah! Mais ça, je trouve ça intéressant qu'une Asiatique mange des saucisses.
Oui. C'est... Non, mais des saucisses qu'elle fabrique elle-même, hein.
Oui. Je sais qu'aux Philippines, par exemple, ils ont des saucisses qu'ils appellent longanisa. Hein.
Oui.
Mon mari est philippin, donc je suis un petit peu familière avec ça. Mais je crois pas avoir vu des saucisses en Chine ou au Japon. Dire au Vietnam, quand... Cambodge, je ne voyais pas vraiment les saucisses là-dedans.
Oui. La Tunisie a des saucisses spéciales qu'on appelle des merguez.
Oui.
Oui, et qui sont très épicées, très pimentées, très machin, etc. Et c'est spécial. Et j'adorais ça, moi, dans le temps. Maintenant, je ne peux plus les manger. Je n'y vais pas, d'ailleurs. Je ne peux pas les manger. Mais j'aime bien la saucisse de l'Asiatique parce que c'est une saucisse pure, il n'y a pas trop de graisse, il n'y a pas trop de... Et plus, elle ajoute un petit brin de ricard dedans.
Ah!
Oui, très intéressant, très intéressant.
Vous parlez de l'alcool français, le ricard.
Oui, le ricard français, oui.
OK, c'est vraiment spécial.
Oui, c'est spécial. Hein.
Et donc, c'est l'Asiatique qui prépare des saucisses avec du ricard. Donc, on peut voir qu'il y a toutes sortes d'influences culturelles dans sa préparation de saucisses.
Exact. Très culturelle, oui. Elle le fait avec elle le fait, elle, à sa manière, plus, bon, le ricard et d'autres... Je ne sais pas ce qu'elle fait, mais ça, je sais qu'elle met du ricard, elle me l'a dit.
C'est bon, ça. Écoutez, à part les saucisses et à part la nourriture, il y a quelques éléments qui m'ont frappé dans votre recueil de poésie.
Oui.
Et je dois avouer, de prime abord, que je ne lis pas beaucoup de poésie. J'en ai lu à un moment, moins maintenant. Et j'étais contente, au fond, d'avoir à me mettre le nez dans un livre de poésie. Et je crois que ce qui m'a frappé, ce sont vraiment vos mots concepts et l'utilisation des 3 petits points de suspension.
C'est ça. Alors, les mots concepts, je mets parfois, je les ai mis maintenant de plus en plus en italique parfois. Hein.
Oui, ça facilite la lecture pour nous.
Oui, ça facilite la lecture pour dire, bon, écoutez, ne cherchez pas dans le dictionnaire.
Oui, c'est ça. Au cas où, tout d'un coup, oh, est-ce que j'ai bien lu? Et juste pour en donner quelques exemples, il y a nomadance, mémorème, il y a intuitir. Et ça, c'est juste dans les premières pages du roman. Oui.
Mais ça, ça se trouve partout, et même dans mes romans, hein, il y en a pas mal. Mm-hmm. Non seulement dans la poésie, mais dans les romans, dans les titres, par exemple. Si vous voyez mes titres, ils sont tous tarabiscotés, ils sont pas très...
Oui.
Livre errance, émigrescence, mm-hmm. pour mentionner simplement deux ou trois. Où est-ce que j'étais là? J'étais dans le truc de...
Dans les mots concepts et les points de suspension.
Concept. Alors,
oui.
Les mots concepts, comme je vous l'ai expliqué, ça donne une dimension beaucoup plus dense aux mots qu'autre chose, que simplement un jeu de mots gratuit pour m'amuser, voilà. Et qu'est-ce que vous m'avez posé l'autre question, c'est
les,
quoi?
Les points de suspension.
Ah, les points de suspension, voilà.
Oui.
Alors, les points de suspension, elles sont parfois mises au milieu de la phrase. C'est parce que c'est... Je veux donner au lecteur de reprendre son souffle, de s'arrêter un peu.
Et donc la virgule,
ou alors, c'est... quand ils sont à la fin, ça veut dire ça reste suspendu un moment et après vous pouvez revenir.
Ok.
Ça peut continuer à raconter d'autres choses, mais ça, je ne veux pas leur dire. D'accord ? Je ne veux pas le dire. Je laisse en suspens.
Et donc, la différence pour vous entre la virgule et les trois points de suspension, quand on est en plein milieu... Je ne vais pas appeler ça un vers,
une phrase,
oui. Est-ce que c'est l'avantage, la pause est plus longue avec les points de suspension et c'est
oui,
tout le lecteur?
La pause est plus longue et la pause est beaucoup plus réflexive, si on veut. Ce n'est pas simplement une virgule. Tout le monde fait de la virgule.
Oui.
Moi, je n'aime pas beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer, j'espère, mm-hmm. que j'aime pas le traditionnel, j'aime pas le conventionnel.
Mm-hmm. Vous me faites penser...
J'essaie de sortir de ça.
Oui, vous me faites penser un peu, parce que c'est complètement différent, mais avec votre jeu de la langue française, vous me faites penser un peu à Marc Favreau au Québec, qui avait écrit les monologues de Sol, de Sol et Goblet. Donc, c'était Sol qui était un clown très triste. Et
oui.
Qui avait énormément de jeux de mots dans ses dialogues.
Oui.
Et vos jeux de mots me font penser... Penser à lui, mais c'est vraiment deux façons de faire différentes,
oui.
Mais qui poussent à la réflexion à chaque mot, à chaque phrase.
C'est ça.
Et donc, vos points de suspension sont vraiment là pour indiquer au lecteur, OK, là, prenez une pause parce que vous devez réfléchir.
Prenez une petite pause et réfléchissez un petit peu, quoi, voilà.
Oui, c'est bon ça, parce que justement, j'avais remarqué qu'ils étaient aussi dans les titres. Ils se retrouvent dans le milieu des phrases, comme vous dites, ou à la fin. Oui, il y a énormément de points de suspension. Et j'ai trouvé ça bien, oui, comme indication au lecteur. C'est une façon pour vous d'aller chercher le lecteur.
C'est ça. C'est ça. C'est une façon d'aller chercher le lecteur. C'était très juste. Si je mettais une virgule ou un truc comme ça, hein, on fait pas attention, c'est une question d'une convention. C'est une convention qui est acceptée par tout le monde.
Mm-hmm.
Et moi, j'aime pas les conventions.
Ou les néologismes.
Ou le néologisme.
Ou la culture, la beau culture.
Oui, oui. Je vais vous raconter l'histoire sur les néologismes. Il y a un étudiant tunisien qui fait un doctorat, tenez-vous bien, à l'université de Poitiers, et qui est venu me voir l'année dernière quand j'étais en France, et il m'a dit qu'il faisait une thèse sur les néologismes de Bouraoui.
Oh mon Dieu! Oh! Et qu'est-ce que vous lui avez dit?
Je lui ai dit, j'aime pas les néologismes. Mais vous, en tant que linguiste, c'est un linguiste, c'est pas un littéraire d'ailleurs, il est complètement perdu, il fait des schémas, des machins comme ça. Je dis, moi, vous savez, je suis pas linguiste, je suis littéraire.
Mmh.
C'est pas pareil, hein.
Non, et vous êtes un littéraire très créatif aussi.
Exact.
Ouais, et donc...
littéraire. Alors, il m'a dit, j'ai dit, d'accord. Bon, il m'a posé sur le pourquoi j'ai expliqué certains néologismes parce qu'il ne les comprenait pas.
Aïe, aïe, aïe.
Oui, ouais. Il ne comprenait pas les néologismes que je faisais. Enfin, donc, il m'a dit néologisme. D'accord, bon, vous voulez faire un néologisme. J'ai dit, combien vous avez ramassé à peu près? Il m'a dit 800.
Oh, surprise.
Alors, okay. Je lui ai dit, et là, il faut que je vous fasse rigoler. Il m'a dit 800. J'ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas 800? Personne ne va s'occuper de 800.
Ben oui.
Qu'est-ce qu'on va dire 800? 800 néologismes. J'ai dit, bourra, oui, écoute, ça fait pas bien. Je lui ai dit, je veux donner un bon tuyau, si vous voulez m'écouter. Faites 1001
néologismes. Et faites-en un dictionnaire.
Et, non, 1001, ça fait appel à 1001 nuits.
Ah, ben oui, mais oui.
Dans la tradition tunisienne.
Oui.
Alors, il m'a dit, c'est magnifique, il m'a dit, vous avez raison. J'ai dit, il y a des livres que vous n'avez pas lus. Lisez-les.
En tout cas, s'il va lire Passerelle, il va en avoir des nouveaux à rajouter, ça c'est certain.
Mais je ne sais pas s'il les a ou si on lui a envoyé le PDF. Non, ouais. Il s'est arrêté. Non, il m'a dit que je vais trouver. Il m'a dit, ne vous en faites pas, je vais trouver.
Aïe, 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 aïe.
Oui, 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 oui.
C'est facile de se perdre en faisant un doctorat, mais bon. Là, écoutez, Eddy Bouraoui, il est 6h05, il est 17h55. J'ai quelques minutes pour terminer. Je veux vraiment parler d'une couple de choses dans votre recueil de poésie.
Allez-y.
Il y a tout d'abord l'illustration sur la page couverture. Il y a des illustrations dans le livre, mais il y a également des photos de sculptures. Il y a des illustrations en noir et blanc. Il y a toutes sortes de rajouts à vos poèmes. Comment est-ce que vous aviez envisagé justement ce recueil de poésie-là dans sa vision globale?
Bon, écoutez, moi, il y a toujours de... Enfin, je m'excuse, j'aime pas le mot non plus. Illustration, hein.
D'accord.
J'aime pas, parce qu'on vous dit illustré par, etc. Non, les couvertures, je les choisis parmi mes amis peintres. D'ailleurs, c'est une collègue et une amie peintre haïtienne, Ginette Adamson,
mm-hmm.
Elle m'a donné le droit de reproduire. Elle en a fait d'ailleurs une carte postale parce que ça lui a tellement plu. Bon, et les autres, je choisis parce que je veux que l'art dialogue avec... Je ne l'illustre pas, moi. Vous n'allez pas trouver, par exemple, s'il y a le mot chameau, je vais mettre un chameau. Ça ne m'intéresse pas, ça.
Mm-hmm.
Ce qui m'intéresse, c'est un dialogue entre des arts différents.
D'accord. Et donc, Passerelle.
Et c'est pour cela, il y a des photos, il y a des sculptures, il y a des peintures. Bon, elles ne sont pas parfois en couleur parce que la couleur coûte très cher.
Oui, ça c'est oui.
Donc, je suis obligé de passer par le noir et blanc.
D'accord.
J'aurais voulu faire... Mais si je mettais des plaques en couleur, des photos, des peintures en couleur, ça coûterait beaucoup plus cher que le livre que j'ai produit. Hein.
Mm-hmm.
Et donc, je suis obligé de passer par... Mais ça m'est égal, moi, ça ne me gêne pas. L'essentiel, c'est qu'il y ait différents arts, d'abord, pour commencer, peinture, hein. Il y a même une carte postale de vœux, par exemple, bon, qui m'a été envoyée par un copain tunisien, d'accord.
Mm-hmm.
Il y a de tout, et je veux que le texte écrit dialogue avec l'art visuel, disons,
mm-hmm.
en gros. Il dialogue, il n'illustre pas le texte.
Effectivement.
Il n'a rien à voir avec le texte.
Exactement. Oui, c'est pour ça que je voulais apporter ce sujet-là.
Oui.
Ouais.
Voilà, ouais, c'est une bonne question, Hélène. Très bien.
Ouais, je me sens comme une bonne élève en ce moment. Je pense que j'ai bien fait ça, ouais.
Ouais, oui, très bien.
Et une dernière question parce qu'on est vraiment à court de temps.
OK, d'accord.
Quand vous avez mis ce recueil de poésie ensemble, aviez-vous un lecteur ou une lectrice en tête?
Non.
OK.
Pas du tout. Je fais ça selon mon intuition. J'ai l'intuition de placer tel poème à côté d'un autre, etc. Ça, la composition du poème, c'est mon affaire. Hein?
Mm-hmm.
Et le reste, bon, le lecteur peut... si ça lui plaît, il lit. Si ça lui plaît encore plus, il fait un compte-rendu.
Mm-hmm.
Vous pouvez toujours en faire un. On vous le publiera dans le CMC Review. Voilà, si ça vous plaît pas, bon, vous laissez tomber, point final.
Mm-hmm. Oui, c'est ça, la réception de l'œuvre, c'est toujours entre les mains du lecteur.
Exact,
ouais.
Voilà, donc c'est au lecteur de décider si ça lui plaît ou plaît pas. Et moi, après, une fois que j'ai mis un point et que c'est publié, je n'ai plus rien à voir. Parfois, je lis jamais, relis jamais mes trucs, jamais.
Ah oui.
Non, une fois que c'est fait, bon. À moins qu'on me demande de lire un texte, je lis un texte. On me dit de faire un choix et de lire un choix. Comme j'ai fait d'ailleurs, vous avez dans vos archives, quand Suzanne Crost m'a invité, ma façon de concevoir et de faire un récital de poésie pendant une heure, ils ont été enregistrés.
Oh, wow, ok, donc je vais demander ça à Suzanne.
Vous demandez ça parce que vous l'avez en archive, c'est un document essentiel.
D'accord. Écoutez, Eddy Bouraoui, sur ce, je dois vous laisser, c'est la radio, le moment
d'accord,
vient que je dois vous couper. Je tiens absolument à vous remercier.